comme il y a un esprit de victoire au milieu de nous ce matin, le Seigneur m'avait justement donné un message sur la victoire. J'ai bataillé toute la nuit pour avoir le message. J'étais fatigué hier soir, je dormais un petit peu à la réunion, je vous l'avoue. Et pendant la nuit, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire demain ? J'essayais de réfléchir pendant que je dormais, mais j'étais tellement fatigué que absolument rien ne venait. Tout à coup, je regarde, je dis, mais c'est quelle heure ? 7h15. Je dis, mais Seigneur, et mon message ? À 10h, 10h30, je dois être là-bas et je ne sais pas ce que je dois dire. Je vous assure, ce n'est pas toujours facile. Je dis, Seigneur, pas d'histoire. Allez, en route. Alors, je pensais à tel message, mais j'ai dit non. Vous savez comment je fais, moi? Je vous donne des petits trucs. Quand je pense à un sujet et que les pensées ne me viennent pas précises et d'une manière assez rapide, ah, j'ai dit non, ça, c'est sûrement pas ça. Alors je pense à un autre sujet. J'ai dit peut-être que là, ça va venir. Oh, rien du tout. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il vaut? Et puis tout à coup, certaines pensées sont venues et j'ai eu la paix dans mon cœur. Il y a eu comme un déblocage et je me suis dit, ça y est, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est effectivement? Voilà ce que je voudrais vous donner ce matin et qui sera comme une pensée qui doit être ancrée en nous, non seulement pour le début de l'année, mais chaque jour de l'année. 5 décisions indispensables pour une vie de victoire. La vie victorieuse n'est pas seulement émotionnelle ou n'est pas émotionnelle. Oui, dans la victoire, il y a de l'émotion, il y a des sentiments, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons expérimenté. C'est normal. Mais la vie de victoire est avant tout faite de décisions. Malheureusement, il y a des personnes qui prennent toujours la décision de ne rien décider. Excusez-moi, je n'ai pas encore pris la décision de me décider. Et voilà pourquoi certains n'avancent pas. Certains ne s'épanouissent pas. Car tant qu'on ne prend pas des décisions, il n'y aura pas de vie victorieuse. Dans certains domaines de votre vie, les sentiments ne suffisent pas. Les bons désirs ne suffisent pas. Essayer la vie victorieuse ne suffit pas. Ah, certains vont me dire après la réunion, frère, tout ce que vous avez dit, je vais essayer de le faire. Même certains vont me dire, mes frères, tout ce que vous avez dit, j'ai essayé de le faire et ça n'a pas marché. Oui, où ça a marché? Pendant toute une semaine. Certains diront, moi ça a marché pendant la retraite de Nouvel An. D'autres vont dire, moi ça a marché encore une semaine après. D'autres vont dire, moi ça a tenu un mois. J'ai essayé pendant un mois, ça a été, mais après il n'y a plus rien du tout. Et je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous avons ce langage. Je l'entends assez. Une vie victorieuse n'est pas faite de sentiments, mais de décisions. Il y a des décisions à prendre. Et 5 décisions indispensables pour une vie chrétienne victorieuse. Lisons quand même un texte de la parole maintenant. Dans les Actes des Apôtres, nous allons voir un homme décidé. L'apôtre Paul, acte 20, quelques versets, versets 22, 23 et 24. Acte 20, versets 22, 23 et 24. Ce passage nous révèle le cœur de l'apôtre Paul. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. S'il y a quelque chose qui se reflète de ces paroles, nous voyons là un homme décidé, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et je vous assure, sur son chemin, beaucoup ont essayé de l'arrêter. Premièrement, le diable, lui, il est toujours là pour nous arrêter. Mais à un moment donné, dans les actes, il est dit que même des frères ont voulu l'arrêter. En disant, mais s'il te plaît, Paul ne va pas. Car ton chemin sera difficile. La souffrance est devant toi. S'il te plaît, pense à toi-même, ne va pas là-bas. Là encore, l'apôtre, montrant sa détermination, non son entêtement. Attention, il ne faut pas confondre encore. Détermination et entêtement. L'entêtement, c'est celui qui n'a pas écouté la voix de Dieu et qui fait sa volonté. Et le jour où le chemin devient difficile, celui qui est entêté, eh bien, se casse le nez. Tandis que celui qui est déterminé, parce qu'il a entendu la voix du Seigneur et fait ce que Dieu lui demande, celui-là sera tenu et soutenu par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission avec joie et jusqu'à la fin. Amen.
Amen.
Ni les hommes, ni le diable, ni ses frères n'ont pu l'arrêter, un homme décidé. Quelles sont donc les 5 décisions indispensables? Pour tous, pas seulement pour les prédicateurs. Paul ici s'adresse aux anciens de Milet, à Éphèse, mais la parole de ce matin s'adresse à tout le monde. 5 décisions indispensables pour commencer une vie victorieuse et pour vivre une vie victorieuse. Première décision indispensable. C'est la décision de haïr le péché. Il faut toujours commencer par le commencement. Je dis bien, il faut avoir une attitude de haine à l'égard du péché. 1 Jean 1, 9 nous dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le passage dit bien si nous confessons nos péchés. Beaucoup d'entre nous, nous avons mal interprété ce que signifie confesser. Car vous dites, mais comment? Moi, je confesse mon péché et cependant, je ne suis pas encore délivré de ce péché. Certains d'entre nous, nous confessons en caressant même notre péché. Certains d'entre nous, nous confessons avec la décision de ne pas abandonner le péché. Que signifie la confession de nos péchés selon la parole de Dieu? Il y a 2 pensées importantes. Quand je confesse mon péché, si tu confesses tes péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans la confession, il y a toujours la haine du péché. Si tu confesses ton péché ou une passion, parce que lorsque je parle de péché, je parle aussi de passion, de lien, de choses qui nous tiennent. Pas seulement les péchés en tant que païens, mais aussi certains péchés en tant que chrétiens où nous bagarrons. Je sais ce que je dis parce que je suis aussi passé par là. Étant même chrétien, il y avait comme une chaîne qui me tenait, comme un lien, comme une passion de la jeunesse. J'ai prié, pas de résultat. J'ai confessé, pas de résultat. Certains ont même prié pour moi, pas de résultat. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré quelque chose de précis. Si tu veux être délivré de cette passion, tu ne dois pas seulement confesser ton péché, mais tu dois le haïr. Lorsque j'ai compris cela, c'était le jour de ma délivrance. Ah, je me suis dit c'était ça. Parce que finalement, j'ai compris. Le Seigneur a été à la racine du mal. Je confessais bien mon péché parce que j'étais plutôt honteux d'avoir un tel péché dans ma vie. J'étais honteux. Alors c'est pas bien pour un chrétien de faire des choses honteuses. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est honteux, n'est-ce pas? Mais dans le fond de mon cœur, il y avait une certaine affection pour ce péché. Parce que pourquoi est-ce que nous gardons encore certains liens ou certaines passions? Dites-le-moi un petit peu. Parce que ça nous plaît encore. Dites la vérité, ça vous plaît encore. Oh frère, moi je prie. Tout le monde, il y a des serviteurs de Dieu qui ont prié pour moi. Ils ont jeûné. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de puissance. Ils n'ont pas de puissance. Ah oui? C'est les autres qui n'ont pas de puissance. Ou toi qui n'as pas de volonté pour haïr ton péché. Si tu n'es pas délivré de certaines passions, veux-tu réfléchir à cela, comme j'ai dû le faire. Le jour où j'ai compris qu'il y avait encore en moi une certaine affection pour cette passion, il n'y avait pas de délivrance possible. Car cette passion, j'en avais fait mon ami. Et Dieu nous a promis de nous délivrer de nos ennemis. Si de votre passion vous en avez fait votre ami, Dieu ne vous délivrera pas de vos amis. Avez-vous compris? Mais si vous faites de cette passion votre ennemi, alors Dieu a promis de vous délivrer de vos ennemis.
Amen. Gloire à Dieu.
Mais il n'y aura pas de délivrance. Écoutez-moi bien, beaucoup d'entre vous vous luttez. Je n'ai pas besoin de nommer certaines passions. C'est toujours la même chose qui revient. Il n'y a pas besoin de nommer. Vous connaissez votre cas. Parce que si j'en nomme un, les autres vont dire, ah moi il n'a pas nommé ce cas-là, donc moi, pour moi, ce n'est pas une passion. Vous savez, il y a encore des spécialistes pour ça. Ah, s'il ne l'a pas dit ça, c'est que pour le moment, le Saint-Esprit veut que je vive encore avec cette passion. Vous savez, il y en a qui ont des drôles de raisonnements. On est tous un peu des spéciaux, hein. Non, tu connais ton problème et tu connais ce qui te tourmente, mais pendant des années, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je parle maintenant de lien, de passion. Quelque chose qui est là caché, que personne ne connaît, mais dans le secret de notre cœur et de notre chambre, nous pleurons encore. Nous gémissons encore. Et vous vous dites, mais ce n'est pas possible, encore une fois, j'ai fait ceci. Encore une fois, j'ai fait cela, ce n'est pas possible. Est-ce que je vais commencer cette nouvelle année avec cela? C'est quelque chose qui vous tourmente, n'est-ce pas vrai? Je vous assure, cette pensée, moi, me tourmentait. Quand est-ce que tu vas t'en sortir? Quand est-ce? Les années passent, quand est-ce que tu vas t'en sortir? Jusqu'au jour où j'ai dû comprendre cela. La première décision, c'est la décision de haïr ses passions. Et lorsque j'ai fait cela, il y a eu la délivrance instantanée. Amen.
Amen.
Il y a eu délivrance. Mais seulement lorsqu'il y a la haine, la haine. Certains d'entre nous, nous haïssons le péché chez les autres. Et nous disons, vous vous rendez compte? Celui-ci, mais c'est affreux. Nous sommes spécialistes pour voir le péché des autres et haïr le péché, le pécheur d'ailleurs. On est tout en même temps. Nous, c'est un peu le contraire. On se déteste nous-mêmes, mais on aime notre péché. Avez-vous remarqué cette contradiction? Selon la parole de Dieu, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Mais beaucoup d'entre nous, pour ceux qui ont ces passions, et vous savez, c'était mes sentiments, ne dites pas que c'est pas vrai, parce que je suis passé par là. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous avons une passion, très souvent, les personnes qui ont des passions,
et tous nous en avons, n'est-ce pas? Tous!
Qu'est-ce qui se passe? Voilà les deux conséquences. Premièrement, lorsque nous avons une passion, nous commençons à nous haïr nous-mêmes. Nous commençons à nous condamner, à nous détester, oui, à nous rejeter. Mais alors, par contre, nous aimons notre péché. Nous aimons ce qui nous détruit. Voyez-vous, il y a comme une contradiction qui est là, ou une confusion. Que tout soit bien clair au début de cette année. Le Seigneur aime le pécheur, mais il est le péché. Le Seigneur t'aime, mais il est ce qui te détruit. Et tu dois avoir la même attitude de haine à l'égard du péché. As-tu une passion? Cesse seulement de confesser ton péché. Voilà ce que tu dois dire. Seigneur, maintenant, je prends la décision. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un autre qui doit prendre la décision à votre place. C'est vous qui devez prendre la décision. Seigneur, j'en ai assez. Je hais ce péché. Toute délivrance ne vient pas toujours instantanément, n'est-ce pas? Il peut y avoir un combat qui peut durer plusieurs jours, plusieurs mois, je ne sais pas, peut-être plusieurs années, j'en sais rien. Mais le point important est celui-ci. Seigneur, je prends la décision non seulement de confesser, mais de haïr. Alors, dans la confession, il y a premièrement la haine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite la délivrance. Amen. La vraie confession conduit à la délivrance. Heureusement, n'est-ce pas? Sinon, on serait tous écrasés. Donc, si une confession ne nous conduit pas à la délivrance, c'est que cette confession ne remplit pas les conditions. Dans cette confession, il n'y a pas la haine du péché. Ce n'est pas la haine de toi-même que tu dois avoir. Beaucoup d'entre nous, nous nous justifions dans ce domaine-là. Vous pouvez même venir pleurer auprès d'un prédicateur ou des serviteurs de Dieu. Oh, s'il vous plaît, mon problème, oh, je suis... Ça ne va pas du tout, pas du tout. Mais finalement, c'est sur vous-même que vous pleurez. Mais pas sur votre péché. C'est sur vous-même. C'est une pitié de soi qui est là. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous jouez le jeu aussi. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas jouer avec la pitié de soi. Il faut voir le problème là où il est, la décision de haïr son péché. Et vous m'écrirez après ce qui s'est passé. Amen.
Amen. Pas besoin d'écrire. C'est une façon de parler.
Vous écrirez aux autres, à vos amis.
Pas à moi, monsieur, ça m'est égal. Mais aux autres, à ceux qui vous ont connus. Voilà, voilà, oui, d'accord, là.
À ceux qui vous ont connus, c'est plus intelligent. C'est plus intelligent. Regarde ce que j'étais. Et voilà ce que je suis. Première décision. Avons-nous bien saisi cela? S'il vous plaît, ne partez pas. Ne dites pas, mais moi, je peux pas. C'est un mensonge. Ah, je vous vois encore, certains d'entre vous. Seigneur, aide-moi à prendre une décision. Ah bon? Et pour certaines choses qui te plaisent, tu ne demandes surtout pas au Seigneur de prendre la décision. Quand tu pêches, est-ce que tu demandes au Seigneur la décision? Tu fais bien ce que tu veux. Tu te décides bien quand tu le veux. Pour faire le mal, tu ne demandes pas à Dieu la décision et la force. Mais pour faire le bien, ah, tu es tout à coup faible. Et tu te sens tout à coup incapable. Dieu donnera toujours la force à celui qui prend la décision. Il y a là maintenant une pensée qui n'est pas biblique, enfin pas biblique, je m'entends, une pensée biblique importante. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Voilà une pensée importante. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. C'est vrai, mais c'est vrai, on le sait. Mais tu dois vouloir être délivré. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas de te délivrer par tes propres forces, de tes passions. Mais ce qu'il veut, c'est que tu veuilles t'en sortir. Et que tu prennes la décision de t'en sortir, car il ne la prendra pas pour toi. Tu n'es pas un automate. Tu n'es pas un robot. Et les autres ne peuvent pas prendre cette décision pour toi. Ce n'est pas possible. Et n'accuse pas les autres de ton état. Parce que là encore, il y a certaines personnes. Ah, moi, je suis dans cet état-là, c'est à cause de l'autre. D'abord, s'ils avaient jeûné un jour de plus, ça aurait marché. Oui, ça aurait marché si toi, tu jeûnais un jour de plus. La décision, à nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. D'accord? C'est le premier pas important. C'est très important. Comment allez-vous commencer cette nouvelle année? Encore avec un fardeau? Encore avec un lien, vous pouvez délivrer. Peut-être, vous serez délivré. Peut-être pas instantanément, mais si vous prenez la décision, vous êtes déjà libre. Amen? Vous êtes déjà libre. La manifestation se fera peut-être plus tard, mais vous êtes déjà libre. Deuxième décision. La décision, cette fois, de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Voilà encore un point très important où beaucoup d'entre nous, nous jouons avec les sentiments. Nous ne pardonnons pas, nous ne voulons pas pardonner parce que nous ne sentons pas le pardon en nous. Nous avons fait de la question du pardon une question de sentiment. Et beaucoup d'entre nous disent aussi, moi je ne suis pas un hypocrite. Je pardonne quand je le sens. Mais comme on ne le sent pas souvent, on ne pardonne pas souvent. Dites-moi, quand est-ce que vous avez vraiment des sentiments de pardon en vous? Levez la main, parce que ça vient pas vite, hein? Le pardon n'est pas une question de sentiments. Le pardon nous délivre de l'esclavage de nos sentiments. Comment? En prenant une décision. Le pardon est un acte de la volonté. Mais vous dites, mais moi je ne peux pas pardonner. Mais je sais bien que vous ne pouvez pas pardonner. Mais vous devez prendre la décision de pardonner. Et quand quelqu'un prend la décision de pardonner, Dieu donne toujours la force à cette personne-là. Amen. Amen. Si tu n'as pas la force de pardonner, c'est que tu n'as pas eu encore la décision de pardonner. La force de pardonner est donnée à ceux qui prennent la décision de pardonner. Tout le reste, ce sont des excuses. La décision de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué dans ta vie spirituelle. Et des milliers, j'ose dire que le premier obstacle, je dis bien le premier obstacle, dans la vie des chrétiens, pour leur épanouissement, c'est le non-pardon. Le non-pardon. Si tu n'avances pas dans ta vie chrétienne, cherche premièrement dans ce domaine-là. Ah, mais vous dites, moi j'ai rien du tout. Bien souvent, quand je pose cette question aux gens, quand on me redit tout de suite, ah non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Vevey. Pendant qu'on priait pour les malades, je dis à une personne, vous, il y a des problèmes dans la famille. Ah non. Enfin, à la fin de la réunion, un ancien est venu me voir. Il m'a dit, mes frères, vous avez tapé en plein dans le mille. Elle n'a pas osé dire son problème. Pourquoi? Parce que son mari était à côté d'elle. Moi, je ne le savais pas. Mais c'était exactement ça. Il y avait des problèmes dans la famille, ressentiment, amertume. Ce qui la détruisait, elle faisait une dépression affreuse. Elle ne s'en sortait pas. Le ressentiment vous détruira. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas pardonner pour faire du mal aux autres. À l'autre, c'est comme une vengeance. Mais laissez-moi dire une chose, si vous ne pardonnez pas, vous vous faites plus de mal vous-même. Ce que les autres vous ont fait comme mal n'est rien du tout à côté du mal que vous faites vous-même, en ne pardonnant pas. Le pardon est une puissance d'autodestruction. Le non-pardon, pardon. Ah, il faut me reprendre, n'ayez pas peur.
Vous savez, moi, des fois, je suis dans le fil de ma pensée.
Le non-pardon est une puissance de destruction. Mais le pardon est véritablement une puissance qui libère. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que parfois nous avons de la peine à pardonner? Parce que nous avons de la peine à comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi. Écoutez-moi bien. Si nous comprenons pourquoi l'autre a agi de cette manière, alors nous allons pardonner plus facilement. Si l'autre vous a fait ceci et cela, c'est parce que lui-même a aussi des problèmes. Il est lui-même peut-être une victime, ou il y a des choses qui sont là dans sa vie qui l'empêchent d'être ce que vous voulez qu'il soit. C'est pourquoi dans le pardon, si nous essayons de comprendre l'attitude des autres, nous allons déjà pardonner plus facilement. Essayez de comprendre pourquoi l'autre réagit comme cela à votre égard. Essayez de comprendre. Et quand vous verrez que l'autre aussi est une personne blessée et meurtrie, parce qu'elle est blessée elle-même, elle blesse les autres. Parce qu'elle est rejetée elle-même, elle rejette les autres. Parce qu'elle est condamnée elle-même, elle condamne les autres. Parce qu'elle est calomniée elle-même, elle calomnie les autres. Essayez de comprendre. Et vous verrez que ce sera plus facile de pardonner. Je lisais le témoignage ou le récit d'un docteur dans le nord de l'Écosse. Il avait son cabinet dans un village. Et dans ce village, il était bien connu. C'était un très bon docteur. Mais il semble qu'apparemment, il avait un problème. Enfin, que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. C'était qu'il était un peu avare. Alors, c'était un bon docteur, mais à cause de ça, les gens avaient un peu, comme une certaine amertume, oui, dans leur cœur. Contre ce docteur-là. Les années ont passé et il est mort. Le jour de ses funérailles, un train est arrivé du sud de l'Écosse et de ce train est descendu environ une douzaine de personnes, j'allais dire presque de personnalités. Et dans cette douzaine de personnes, il y avait des docteurs, il y avait des spécialistes et même des professeurs. Qui sont venus là, à l'enterrement. Et là, voilà ce que les gens du village ont su. Tous ces docteurs et professeurs avaient été aidés par ce docteur apparemment avare. Pendant des années, ce docteur a payé tous les frais d'université et d'écolage de ces docteurs et professeurs. À cause de cela, il devait bien sûr serrer la ceinture et il paraissait avare aux autres. Mais lorsque les villageois ont compris cela, alors il était facile pour eux, plus facile pour eux, de pardonner à ce docteur. Quand ils ont compris pourquoi il était comme cela, je crois que pour beaucoup d'entre nous, si nous prenons la peine de comprendre la condition de l'autre, pourquoi l'autre agit comme cela, alors nous serons plus indulgents et le Seigneur nous aidera à pardonner plus facilement. Le croyez-vous? La décision de pardonner. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous connaissons tous cette prière, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous faire remarquer une chose. Il est dit, donne-nous aujourd'hui, chaque jour, notre pain quotidien. Et dans le texte grec, c'est la même phrase qui veut dire, donne-nous chaque jour le pain quotidien et chaque jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon est un pain absolument indispensable dont nous devons nous nourrir chaque jour. Chaque jour, Dieu nous pardonne. Chaque jour, nous devons pardonner aux autres. Et si nous avons appris à pardonner chaque jour, ce sera de plus en plus facile. Amen. Si bien qu'au bout de quelque temps, la difficulté s'en ira, et la joie, le privilège de pardonner va s'installer dans vos cœurs. Amen. Car c'est un privilège, finalement, de pardonner. Ce sont ceux qui ne sont pas libres qui ne peuvent pas pardonner. Ce sont les esclaves qui ne peuvent pas pardonner. Quand vous ne pardonnez pas, vous révélez par là quelque chose, votre esclavage, vous n'êtes pas libre. Mais lorsque quelqu'un pardonne, loin d'exprimer son esclavage, il exprime sa liberté. Pardonner est un acte royal. C'est le pardon du roi. Alléluia! Lorsque vous pardonnez, vous manifestez l'esprit du roi. C'est un acte royal. C'est un privilège de pardonner. Oh, si l'Église comprenait cela! Oh, si l'Église comprenait cela! Pour beaucoup d'entre nous, mais nous n'avons pas encore compris cela. Et nous nous croyons des champions spirituels. C'est ça encore qui est le plus tragique. C'est cela qui est encore le plus affreux. C'est le pardon qui révèle votre véritable maturité spirituelle. Chaque jour, nous avons besoin d'être pardonnés. Voilà ce qu'il faut faire, pas seulement début, le premier jour de l'an. Seigneur, je te demande pardon et je pardonne, mais chaque jour, car nous ne pouvons pas vivre sans pardon. Avez-vous compris cela? Vous ne pouvez pas vivre. Certains d'entre nous, mais vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés, vous dites, mais comment ça se fait? Il m'a fait ça. Mais tu es étonné! Mais tu es encore sur la terre, voyons! Oh, mais c'est pas possible! Jamais j'aurais pensé qu'il fasse ça. Mais comment? Mais tu es, on est encore sur la terre! Et d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours quelqu'un qui essayera de vous faire du mal, qui vous critiquera, qui vous ne comprendra pas, vous vous sentirez rejeté. On est sur la terre! Et vous aurez toujours, chaque jour, besoin de pardonner. Avez-vous compris cela? Oh, comprenons-le! Il n'y a pas de vie sans pardon! Et chaque jour, tu dois le faire. N'attends pas une convention. Ou n'attends pas la catastrophe dans ton foyer pour pardonner. Certains sont toujours à ce point-là. Quand ils commencent à voir que ça se divise, que les enfants quittent la maison, ils se réveillent de leur torpeur spirituelle. Ah, mais pourquoi est-ce qu'ils s'en vont? Chaque jour, ne l'oubliez pas, chaque jour vous devez pardonner. Chaque jour Dieu vous pardonne. Et chaque jour vous devez pardonner. Vous ne vivrez pas autrement. Vous ne vivrez pas. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et quelqu'un qui n'est pas pardonné est quelqu'un qui est encore sous un sentiment de culpabilité. Il se sent encore condamné. Mais le Seigneur est venu pour nous délivrer, n'est-ce pas vrai? Le pardon vous libère! En libérant les autres. Gloire au Seigneur. Troisième décision maintenant. Je dis bien des décisions, avez-vous bien compris? Ne faites pas la prière, oh mon Dieu. Aide-moi, donne-moi les bons sentiments pour que je pardonne. Cette prière ne sera jamais exaucée. Mais si vous dites, Seigneur, aujourd'hui, je commence l'année en pardonnant. Et quand vous pardonnez, nommez les personnes. Que ce soit dans la prière, ou si vous écrivez ou téléphonez, mais lorsque c'est dans la prière, ou que même une personne morte, vous devez lui pardonner. Même vos parents décédés, vous devez leur pardonner. Mais comment ils sont morts? Mais tu ne pardonnes pas pour eux, tu pardonnes pour toi, premièrement. Car si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es lié. C'est toi qui as des problèmes. Eux sont morts, mais toi, tu es encore vivant. Et si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui ne vis pas. Et si tu continues, tu vas bientôt les rejoindre. Et il y en a qui prennent ce chemin beaucoup plus vite qu'ils le pensent. Vous êtes d'accord? Oui, il y en a qui vont beaucoup plus vite qu'ils le pensent. Il vaut mieux qu'on le prenne comme ça. Troisième décision maintenant. Troisième décision. La décision d'aimer son prochain, son frère et son ennemi. Je répète. La décision d'aimer son frère, son prochain, son ennemi. Encore une fois, là, pour beaucoup d'entre nous, l'amour est une question de sentiment. Quand certains parlent d'amour, les larmes viennent tout de suite aux yeux. S'il vous plaît. Oh, c'était si beau. Voilà ce que c'est l'amour pour eux. C'est bien, je le dis, je le répète, dans l'amour, il y a du sentiment. C'est normal, autrement, ce serait pas beau. Mais le véritable amour n'est pas basé sur les sentiments, mais sur la volonté. Voulez-vous un texte pour cela?
Je dis, alors, frère, il faut me donner des textes bibliques, parce que moi, je ne crois pas tout.
Mais vous avez raison. Il faut toujours vérifier. Jean, chapitre 13. Un passage que vous connaissez tous bien, d'ailleurs. Mais bien souvent, nous les comprenons de travers. C'est ça, le problème. Jean 13. Versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement? C'est ça qui est drôle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, là? Parce que nous comprenons tout cela de travers. Il n'a pas dit, mes enfants, lorsqu'à un moment donné dans votre expérience spirituelle, et que vous serez sur la montagne de la transfiguration, et que vous avez des sentiments d'amour pour votre ennemi, pour votre frère, alors pardonnez vite, parce que si ça s'en va, c'est fini.
Ah oui, mais beaucoup d'entre nous, c'est ça.
Nous attendons cette expérience sublime, que ça vienne.
Malheureusement, ça vient pas souvent.
Ou si ça vient, ça repart plus vite que ça ne vient, on n'a même plus le temps d'aimer.
Bizarre ce que je dis.
Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit là encore? L'amour nous délivre de l'esclavage du sentiment. Parce que l'amour est avant tout un commandement. Le Seigneur s'adresse à la volonté de quelqu'un et non à ses sentiments. Le Seigneur vous dit maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Il s'adresse à votre volonté, il ne dit pas, oh mais sens-tu l'amour ou pas? Il ne dit pas cela, il parle à votre volonté et il dit, je te donne un commandement. Aime ton frère, aime ta sœur, c'est un commandement nouveau, aime. Fais agir ta volonté. N'écoute pas tes sentiments. L'amour est avant tout une décision. C'est pourquoi nous pouvons décider d'aimer. Si vous vivez des sentiments, vous allez aimer une fois ou deux dans l'année, ou pendant des occasions spéciales. Mais si vous prenez la décision d'aimer, vous pouvez prendre cette décision chaque jour. Et chaque jour, vous pouvez aimer. Amen. Voilà ce que vous pouvez faire maintenant. Décidez d'aimer votre mari, votre femme, vos enfants, votre ennemi, celui que vous ne pouvez pas voir ni entendre. Naturellement, vos sentiments sont là, bouillonnent. Prenez la décision. Dites, j'aime mon frère, j'aime mon ennemi. Un jour, on a reproché à Abraham Lincoln quelque chose. On lui a dit, mais dis non, mais t'es trop gentil avec tes ennemis, toi. Ça se fait pas. Tu es le président. Qu'est-ce qu'on fait de ses ennemis? Tu dois les détruire. Abraham Lincoln a répondu, mais c'est ce que je fais. En aimant mes ennemis, j'en fais des amis. Et c'était la meilleure façon de détruire ses ennemis. Oui, tu veux détruire tes ennemis? Oui, d'accord. Oui, tu peux les détruire. Mais attention, ne te trompe pas d'instrument. Prends l'amour et tes ennemis se changeront en amis. Mais tu dois prendre une décision. Encore une fois, ne priez pas, oh mon Dieu, je t'en prie, donne-moi la force de prendre la décision. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Seigneur donnera toujours la force d'aimer à quelqu'un qui prend la décision d'aimer. Veux-tu le faire? Prends une décision. Décide-toi ce matin et décide-toi chaque jour. Et tu verras que l'amour divin, l'amour agapé, sera une expérience merveilleuse.
Les sentiments ne seront pas toujours là. Mais le Seigneur, au bon moment, te donnera aussi les bons sentiments. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Quatrième décision, indispensable pour une vie de victoire. La décision d'être fidèle dans les petites choses.
Là, beaucoup ont de la peine à prendre cette décision.
Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. La fidélité dans les petites choses. Au milieu de nous, il y a certaines personnes qui pensent un peu ceci. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Tout véritable ministère, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, n'importe où, commence dans la fidélité, dans les petites choses. Vos grands dons révèlent vos capacités, mais vos petits dons révèlent votre consécration. Votre fidélité dans les petites choses révèle votre consécration. Et finalement, la vie est pratiquement faite que de petites choses. Que de petites choses. Ne courez pas à faire de grandes choses. Soyez fidèles à ces petites choses. Et Dieu vous donnera d'autres choses plus grandes à faire. Mais si vous prenez la décision d'être fidèle dans les moindres choses, le Seigneur veillera et bénira votre travail. Amen.
Amen.
Ceci est très important. Nous devons faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Et les choses extraordinaires d'une manière ordinaire. Vous auriez pu dire alléluia. C'est cela. La décision d'être fidèle dans les moindres choses. Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'appelle pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'utilise pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas des grandes choses avec moi? Pourquoi est-ce que certains sont appelés, d'autres pas? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a peut-être une raison à cela. Je lisais l'histoire de deux monsieur qui cherchaient un poste de directeur. Ils étaient invités par le patron qui devait prendre une décision et voir qui il devait choisir. Un jour, ces deux hommes viennent donc voir le patron. Alors l'un s'approche, discute avec le patron. Oui, gentil monsieur, bonne qualité, bonne tête, présente bien, ça va. Alors on va voir. L'autre arrive après, à peu près les mêmes qualités. Tous les deux se valaient, si bien qu'il avait de la peine à choisir. Il s'est dit, mais qui est-ce que je vais choisir? Donc le premier était déjà parti. Et pendant qu'il réfléchissait, finalement l'autre est parti aussi, puisqu'il lui a dit, il faut que je réfléchisse maintenant, je vous donnerai ma décision plus tard. Et pendant que ce monsieur est parti, il a aperçu une petite épingle par terre. Ce monsieur a pris l'épingle par terre, il a dit, excusez, voilà, ça c'était par terre, et il l'a donné au patron qui était là en mettant sur la table. Le patron a dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je prends. Si tu es fidèle dans ces petites choses, alors je peux avoir confiance en toi pour te confier de grandes choses. Dieu vous voit tous, pas seulement à l'église, pas seulement vos grandes prières ici lorsqu'on fait des consécrations. Parce qu'il y en a qui s'approchent presque tout le temps. Et ils sentent que Dieu ne les appelle jamais. Ils n'entendent que l'appel des hommes. Ah, ils entendent l'appel des hommes à l'église. Mais l'appel de Dieu dans la maison, dans le travail, qui leur demande d'être fidèles dans les moindres petites choses, ça,
Non, non. Le monsieur est trop imbu de lui-même. Voyons, moi, je suis destiné à quelque chose de grand. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça? C'est trop petit pour moi. Je m'excuse. Ce travail est... Non. J'ai un autre ministère. Et vous auriez dû le reconnaître depuis longtemps. Ah, tu es tellement grand que tu n'arrives pas à passer par les portes que Dieu t'ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Trop grand! C'est trop grand! Toutes les portes que Dieu ouvre sont très petites. Très petites. Et très basses. J'allais dire, c'est presque des petits trous. Toutes les portes que Dieu ouvre sont des portes faites pour la personne qui est humble et pour celui qui sait marcher à genoux. Voilà comment Dieu ouvre des portes à celui qui est fidèle dans les moindres choses. Les hommes ne voient pas toujours ce que tu fais, heureusement. Et parce qu'ils voient toujours ce qu'ils font, ce que tu fais, c'est justement là ton malheur. C'est justement là ton piège. Parce que tu fais tout pour être vu des hommes. Qu'est-ce que les pharisiens? Ils font tout pour être vus des hommes. Ils font tout pour être vus. Même si les hommes ne te voient pas, il y en a un qui veille sur toi et qui, au bon moment, t'appellera. Amen.
Alléluia.
C'est pas celui qui crie le plus. Ce n'est pas celui qui obéit le plus. Je veux dire, c'est pas celui qui chante le plus, qui prie le plus. C'est celui qui est le plus fidèle dans les moindres choses, les choses insignifiantes. Avez-vous remarqué que Jésus a passé 30 ans, 30 ans, caché, 30 ans apparemment dans les choses naturel, presque inutile, j'allais dire. Humainement, certains diraient, mais comment, pendant 30 ans, il a perdu son temps? Loin de là. Il avait besoin de passer ses 30 années dans l'ombre, mais dans la fidélité à son Père et dans les moindres choses. Mais 30 ans de fidélité dans les petites choses lui ont permis d'avoir 3 années de ministère et de faire de grandes choses. La décision d'être fidèle dans les petites choses, chers amis, cette décision, voulez-vous la prendre? Sois assez grand pour prendre la décision de faire de petites choses. Sois assez grand pour cela. Il n'y a que les grands qui prennent de telles décisions. Pour terminer, cinquième décision, celle-ci aussi, beaucoup n'arrivent pas à prendre cette décision, la décision de donner toujours la gloire à Dieu. La décision de toujours donner la gloire à Dieu. Et cela pas seulement pour les prédicateurs, mais pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque j'entends parler certaines personnes, on se demande si tout à coup ces gens sont venus du ciel. Ils ravissent la gloire de Dieu. Il vaut mieux s'amuser avec des fils électriques que de s'amuser avec la gloire de Dieu, je vous le dis, chers amis. C'est plus dangereux de jouer avec la gloire de Dieu que de jouer avec les fils électriques. La parole de Dieu dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. C'est une décision à prendre. Je ne veux pas dire que nous n'aurons pas, d'une manière ou d'une autre, des tentations, pas du tout. J'ai ces tentations aussi. Et je dois m'abaisser. Et le Seigneur utilisera n'importe qui aussi pour m'abaisser. Nous avons tous ces tentations. Mais le point important est celui-ci. Si un jour dans votre vie, vous n'avez pas pris cette décision que vous devez renouveler chaque jour, de toujours donner la gloire à Dieu, tôt ou tard, vous serez sur le côté du chemin. Et il y en a beaucoup.
beaucoup, beaucoup qui ne tiennent plus sur la route à cause de cela. L'orgueil les a détruits. La décision de donner toujours toute la gloire à Dieu.
Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans les Actes des Apôtres, il y a l'expérience d'un nommé Hérode. Quand la foule l'acclama et dit « C'est la voix d'un Dieu et non la voix d'un homme. » Et lui a été assez stupide et fou et orgueilleux pour ne rien dire. Et pour accepter de telles paroles, si bien que la parole de Dieu nous dit qu'un ange est venu le frapper parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Et il mourut rongé de ver. Rongé de ver. Voilà ce qui nous attend si nous ne donnons pas la gloire à Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est à un païen que le Seigneur a fait cela. S'il l'a fait à un païen, croyez-vous que les chrétiens passeront à côté? Je crois que la décision la plus importante dans votre vie sera peut-être celle-ci, de toujours donner la gloire à Dieu. Toujours, toujours, toujours. Et plus vous le ferez, plus Dieu vous utilisera. Peut-être réalises-tu en ce moment que la bénédiction de Dieu n'est plus comme avant? Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai ravi la gloire à Dieu? Est-ce que je lui donne gloire pour tout ce qu'il fait? Pour tout ce qu'il a fait, est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui ai vraiment donné toute la gloire? Ou est-ce que d'une manière ou d'une autre, je prends quelque chose pour moi-même? Ceci est sérieux, sérieux, sérieux. La décision. Seigneur, je veux prendre la décision de toujours te donner la gloire. Vous ferez des erreurs, bien sûr, j'en ferai. Mais cette décision vous gardera. Vous maintiendra dans l'humilité. Et le Seigneur vous soutiendra et vous donnera d'accomplir votre course comme Paul jusqu'à la fin, avec joie. Lié par esprit, je vais à Jérusalem. Des souffrances et des persécutions m'attendent. Mais avec fidélité et persévérance, je veux servir mon maître. En ce jour-là, il me donnera la couronne de justice. Si tu as ta couronne ici-bas, tu n'en auras pas là-haut. Mais si tu refuses toute couronne ici-bas, une belle t'attend là-haut. N'accepte pas que les hommes te couronnent. Ne te couronne pas toi-même. Mais attends le jour du couronnement où le roi des rois te couronnera. Et où tu prendras ta couronne pour la lui donner aussi. Que devant le roi des rois, tu ne peux pas garder ta couronne, car tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Tu jetteras tout à ses pieds, tu lui donneras gloire éternellement.
Gloire.
Amen.
Amen.
Merci Seigneur.
Amen.
Nous sommes devant toi, Père. Et nous voulons nous laisser sonder par toi. Nous voulons que tu nous guérisses en ce premier jour de l'an. Afin que tu nous envoies partout où nous habitons, où nous sommes, avec la ferme détermination de te glorifier. Seigneur, bénis ton peuple. Et qu'en cette matinée, des décisions soient prises devant ta face. Et à ceux qui prennent la décision, tu leur donneras toujours la force d'accomplir et de réaliser cette décision. Fais-le, Seigneur. Tu es toujours près de celui qui prend la décision. Voici, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Choisis la vie afin que tu vives.
Amen.
Il y a un choix devant toi. Choisis la vie. Prends la bonne décision. N'essaye plus. Ne désire pas seulement, mais décide-toi. Et le Seigneur t'aidera. Et sa puissance s'accomplira dans ta faiblesse. Alléluia. Tel que j'apprécie des décisions ce matin. Nous allons passer quelques instants dans la prière, mais ces prières ne seront que des décisions. Si le Seigneur vous a parlé, alors que votre prière soit, Seigneur, si c'est une question de lien, je décide de haïr mon péché. Si c'est une question de pardon, vous dites, je décide de pardonner. Si c'est une question d'amour, je décide d'aimer. Si c'est une question de fidélité, je décide d'être fidèle. Et si c'est une question de gloire, je décide, Seigneur, de te donner toute la gloire. Donc, des prières courtes, une seule confession, maintenant, devant le Seigneur, devant l'Église et devant les puissances des ténèbres qui seront là. Qui essayent de nous arrêter. Mais prenez la décision. Prions maintenant.
Alléluia.
Merci Seigneur. Seigneur, je décide de te donner toute la gloire.